France Inter.
Sociologue, historien et chercheur à l'École pratique des hautes études, Jean-Miguel Pire étudie le rôle des politiques concernant l'esprit dans les champs artistiques, scientifiques, culturels et éducatifs. L'esprit, vous savez, c'est cet espace humain assez maltraité par les temps modernes et qui, s'il est soigné, permet l'accès à la liberté individuelle et au développement de la démocratie. L'essayiste s'interroge également sur la place de l'art dans la scolarité et s'est spécialisé dans une notion qui trouve sa source dans l'Antiquité et dont le nom faillit être celui de l'émission, la notion d'Ossium, loisir fécond auquel l'émission de ce soir est consacrée. Jean-Miguel Pire a publié Ossium, art, éducation, démocratie chez Actes Sud en 2020 et a dirigé Musée indiscipliné, enjeu républicain de la transmission artistique en 2018. Il vient de faire paraître aux éditions Sciences Humaines l'Ossium du peuple à la reconquête du temps libre. Bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Jean-Miguel Pire.
Bonsoir Eva Bester.
Par quoi avez-vous été le plus préoccupé aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui j'étais très nostalgique parce que je pensais à la dernière fois que j'étais venu dans cette maison et dans un studio, c'était il y a plus de 30 ans.
Ah bon ?
C'était pour une émission de Macha Béranger.
Ah oui.
Qui était ma star, qui brillait dans la nuit. Et moi, jeune sociologue, je voulais faire une étude sur les publics de Macha Béranger. Et elle m'a reçu bien gentiment. Et puis après l'émission, on est restés bons amis parce que c'était impossible de saisir la magie qu'il y avait, qui opérait dans ces émissions.
Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas être Macha Béranger.
Pas du tout, et c'est un bonheur de se dire que certaines traditions sont maintenues dans cette maison et qu'il est toujours possible d'avoir ces conversations intimes, chaleureuses et très plaisantes.
Oh oui, vous allez voir. Alors, Jean-Miguel Pire, vous êtes... Non, ce n'est pas une menace. Vous êtes diplômé en sociologie politique et histoire des idées politiques. Votre thèse de doctorat s'intitulait « Les origines du volontarisme culturel français, sociologie de la politique culturelle sous la monarchie de Juillet ». Alors, je rappelle, évidemment, tous les auditeurs adorent parler de la monarchie de Juillet tous les jours, mais c'est ce régime politique français entre 1830 et 1848, instauré après la révolution dite des Trois Glorieuses. Pourquoi vous êtes intéressé à cette période précisément?
Moi j'aime bien les gens qui sont détestés, les phénomènes sur lesquels il y a un accord de détestation collective. Pour parler sérieusement, effectivement, il y avait quelque chose à creuser derrière la détestation dont faisait l'objet ce régime, la monarchie de Juillet, le régime des bourgeois, des banquiers, des industriels sans morale, et de comprendre que derrière ce théâtre, il y avait aussi des instituteurs, des professeurs, des artistes, qui avait été soutenu par le premier régime, et c'était ma proposition, ma thèse, qui avait mis en place un peu l'origine de la politique culturelle qu'on connaît aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez définir ce que vous nommez les politiques de l'esprit et dont il va être beaucoup question ce soir ?
Les politiques de l'esprit, ce sont celles qui créent un espace favorable à la réflexion, au développement de la conscience, à la lucidité pour tout le monde. C'est des régimes qui sont finalement qui sont fidèles au contrat républicain, au contrat que la France a passé avec 1789 quelque part, de permettre à l'ensemble de la population d'accéder à cette capacité de penser par soi-même et de décider de son destin.
Est-ce que l'esprit, c'est une chose que vous visualisez ? Votre esprit, par exemple, comment l'imaginez-vous ?
L'esprit, j'essaye de le visualiser. C'est souvent, on me pose cette question, mais comment faire ? Quel est le mode d'emploi de votre ossuaire ? On va en parler. Et ma réponse est souvent d'ordre spatial. Je le spatialise. J'essaye de m'imaginer une pièce, en fait. Et chaque pièce, comme vous savez, détermine des comportements. Et dans ce studio, par exemple, je me comporte d'une façon particulière. Et je trouve intéressant de se dire, eh bien, cet esprit qui se déroule dans des heures, dans des moments, avoir une vision spatiale, c'est déjà se l'approprier, l'apprivoiser et l'occuper avec des comportements et avec des démarches qui permettent de faire vivre cet esprit.
Est-ce qu'un esprit, ça peut se nourrir? Est-ce qu'on peut l'affranchir, le faire s'épanouir et faire fi du déterminisme familial ou de l'environnement? Est-ce qu'on a vraiment du pouvoir sur son propre esprit?
Je pense qu'on est tous nés avec une intelligence. C'est ce qui nous distingue du monde animal. Et nous avons vocation à développer cette intelligence, quelle que soit nos origines, la situation de déterminisme dans lequel on est installé dans sa naissance. Et je dirais qu'au fond, c'est le grand projet de la démocratie, c'est de permettre à chaque individu de pouvoir déployer son esprit, de pouvoir déployer ses capacités, ses possibilités, et de pouvoir devenir un protagoniste de sa propre existence. Je pense qu'effectivement, la réponse est oui, si nous sommes dans le régime démocratique, avec le sens très large qu'il peut avoir, c'est-à-dire pas seulement l'accès à une prospérité matérielle, mais aussi l'accès à une culture qui permette de se déployer.
On reviendra à ces sujets et notamment aussi l'aspect matériel de la chose pour permettre cet osium qu'on va découvrir dans quelques instants. On va se libérer un peu du joug des temps modernes. Ce soir, juste après, un peu d'adoucissement des mœurs.
Je...
Laurent Barden et Jeanne Haddad et Tigre d'eau douce, le titre meilleur.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Je suis avec le sociologue et historien Jean-Miguel Pire pour évoquer son essai « L'Otium du peuple ». Jean-Miguel Pire, vous faites remarquer que nous n'avons pas de terme pour désigner l'usage gratuit, désintéressé, non mercantile du temps. Et c'est pour cela que vous souhaitez remettre au goût du jour le mot « otium », terme latin ayant disparu de notre vocabulaire, mais qui traverse toute l'histoire de la pensée. Est-ce que vous pourriez en donner une définition ?
Alors, l'otium, c'est très précisément le loisir intelligent. C'est-à-dire, c'est la part du temps libre qui est consacrée au développement de l'intelligence, de la conscience, du discernement, de l'imaginaire. C'est la part, au fond, du temps qui est délivrée des obligations du travail, des tâches vitales. Et c'est ce temps qui permet de se dédier à la construction du fort intérieur, du libre arbitre, du jugement. Donc, ce sont des choses qui sont absolument décisives pour exister comme conscience individuelle, en fait, pour être quelqu'un qui pense de façon autonome. Et effectivement, bizarrement, dans notre vocabulaire, il n'y a pas de mot qui qualifie le temps que l'on peut consacrer à cette activité de développer son esprit.
Cette idée de loisir studieux ou fécond émerge au 5e siècle avant notre ère chez les Grecs sous le nom de skolé, qui désigne le temps matériel dédié à la quête de la sagesse. Et les Grecs, on l'apprend en vous lisant Jean-Miguel Pire, sont les premiers à imposer l'idée d'un loisir fécond et à l'institutionnaliser. Alors comment est-ce qu'on institutionnalise cette idée ? Parce que ça paraît vraiment merveilleux.
Ça se fait pas d'un coup. Je pense que c'est un processus progressif qui est très dépendant de la dégradation de la place des religions au fond et des traditions qu'ont connu les Grecs, et vient un moment où effectivement il faut trouver une autre source de sens, une autre source d'unité sociale, et c'est l'usage de la raison, de la rationalité empirique, délibérative, qui apparaît comme le meilleur ciment d'un groupe d'individus qui n'est plus relié, qui n'est plus tenu par les grandes religions et les grandes traditions. Et donc il y a ce moment complètement fondateur où finalement l'individu est considéré comme la mesure de toute chose. Au fond, il est celui qui, par son effort mental, par sa quête de sagesse et de vérité, va donner le sens qui permettra à la société de se fonder.
Alors, est-ce que vous pouvez raconter, par exemple, on imagine un groupe de Grecs de l'Antiquité, comment ils se rassemblent, ils sont tout seuls, qu'est-ce qu'ils font ? Racontez-nous une soirée otium.
Oui, alors ce qui est intéressant, justement, c'est une question vraiment qui nous mène au cœur de l'affaire, c'est-à-dire que l'otium, en fait, il est profondément lié à la démocratie, à l'organisation de l'embryon du régime démocratique, c'est-à-dire des individus qui se réunissent, qui ont un projet commun, mais comme ils sont à égalité, ils sont obligés de discuter, ils sont obligés de respecter leurs paroles, et le fond commun de leur accord ne peut être que la vérité empirique, au fond. Et c'est ça, l'espèce de lien intime qu'il y a entre la démocratie, le fait de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dire des choses qui sont audibles par tout le monde parce qu'elles sont fondées en vérité, fondées sur un examen rationnel, et le fait de reconnaître l'importance du temps nécessaire pour se livrer à cette quête de vérité. Et donc, cette espèce de chaînon, ce lien très intime entre les deux, est un peu manqué par l'histoire de la pensée, je crois.
Ça m'a fait penser à un autre terme qui est le terme d'époquer, la suspension du jugement en ce qui concerne le réel, pour justement entrer en soi, rêvasser, penser et mieux analyser.
C'est l'idée centrale, c'est suspendre le préjugé, suspendre le jugement qui n'est pas fondé en vérité. C'est le cœur même de la philosophie, au fond, parce que, en fait, l'otium, et d'abord chez les Grecs, la skolé, c'est simplement le nom du temps qu'il est nécessaire pour réfléchir. Et la chose complètement paradoxale de notre époque, c'est qu'au fond, la philosophie rationnelle a gagné dans la civilisation, même la civilisation mondiale, le droit, même le droit international, est fondé sur la rationalité philosophique. Mais au fond, donc, c'est une valeur qui est acquise, même s'il y a beaucoup de progrès à faire et que les démocraties sont peu nombreuses et fragiles. Mais pour autant, le temps qui est nécessaire pour réfléchir n'a jamais été valorisé à la hauteur de ce qu'a été valorisé la philosophie. Et je pense que c'est ce paradoxe dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous voudrions tous réfléchir. Nous savons très bien que notre temps de cerveau disponible, c'est important. Mais on n'a pas de mots pour qualifier ces instants qu'il faudrait pouvoir, en toute liberté, en toute indépendance, consacrer à notre vie de l'esprit.
Alors, on va revenir évidemment à l'époque actuelle, mais prenons ce temps qu'on ne prend pas habituellement et passons des Grecs aux Romains, puisque la scolée est reprise à Rome sous le terme osium, mais ne devient à ce moment-là réservé qu'à un petit nombre d'individus, puisque l'osium reste tout de même inférieur à la valeur travail.
Alors, c'est là que tout bascule, parce qu'en fait, les Romains continuent à valoriser la réflexion philosophique. Ils s'approprient une part de l'héritage grec, mais ils considèrent que ça ne peut pas être une priorité de la société. Ce qui compte pour les Romains, c'est l'action, c'est la transformation du réel, c'est le négoce, en fait. Et c'est ça qui est absolument saisissant dans cette affaire, et c'est pour ça que c'est une histoire de mots, en fait.
L'étymologie du négoce.
C'est l'étymologie du négoce, c'est que le mot négoce vient du mot latin nec osium. Donc, l'autre nom du marché, le négoce, est fondé sur la négation de cet osium qui est décisif pour nous aider à réfléchir. Et donc, aujourd'hui, il y a un effet de révélation absolument sidérante, puisqu'effectivement, on sent bien que un des obstacles à la réflexion libre est non pas peut-être le marché, mais la place qu'a pris le marché dans la totalité des zones de notre existence. Et donc là, quand on saisit que l'osium, c'est ce qui devrait résister au négoce, eh bien, on se dit que ce mot qui a l'air un peu bizarre, qui vient de loin, eh bien, ce mot, au fond, il est déjà là, comme un passager clandestin, au fond, dans nos existences, et qu'il suffit de le révéler, il suffit un peu de le dépoussiérer, et on découvrira que c'est un moyen de résistance, un levier.
Certains s'en emparent, le christianisme capte l'idée, mais l'osium pour le christianisme doit se limiter au cadre religieux. Et heureusement, il y a Pétrarque, Jean-Miguel Pierre.
Heureusement, Pétrarque est arrivé. Non, en fait, l'osium, je dis, c'était un passager clandestin, donc il vient dans l'histoire des idées. Il va être effectivement approprié par les religions monothéistes, par le christianisme, qui se glisse finalement dans le lit de la philosophie, en récupérant les techniques de la philosophie, l'introspection, la réflexion, l'éthique, évidemment, mais il va en éliminer un aspect central qui est la liberté de penser sans préjugés. Mais faisons quand même crédit à la religion chrétienne d'avoir maintenu un esprit d'osium et d'avoir aussi permis de garder les textes anciens qui nous ont permis de redécouvrir cet osium. Ce que fait Pétrarque au début de la Renaissance. Et la Renaissance est le moment de revival un peu de cette pensée osiomique. En France, le plus célèbre des écrivains qui dédie son existence, c'est évidemment Montaigne. La vie, l'œuvre de Montaigne sont intensément osiomiques. C'est l'homme qui se retire dans sa tour pour réfléchir en pleine liberté, comme un être autonome, et nourri des grands auteurs latins et des grands auteurs grecs qui ont donner leur lettre de noblesse à l'osium.
Alors, entendons-nous bien, l'osium n'est absolument pas de la paresse, puisque je pense par exemple à ce terme qu'on retrouve chez les chrétiens d'acédie, qui engendre la mélancolie, et c'est le désœuvrement. Il ne s'agit pas du tout de cela.
C'est là que c'est intéressant de revenir au mot. Effectivement, un des autres descendants de l'osium dans notre vocabulaire, c'est l'oisiveté. Et ça dit bien, effectivement, l'aspect extrêmement négatif, péjoratif, du temps libre. C'est pour ça que c'est intéressant de faire, et c'est important de faire la distinction et de considérer que l'osium s'inscrit dans le temps libre, mais d'une façon féconde. C'est-à-dire que il y a le temps libre dédié au divertissement, qui est tout à fait légitime, et il ne s'agit pas de nous transformer tous en petite montagne le reste du temps, mais il y a une autre partie de ce temps libre qu'il faudrait pouvoir consacrer à cette réflexion, à cette quête de sagesse et de vérité. Et la vérité, c'est que nous le faisons déjà, évidemment. Nous avons tous des moments d'osium dans notre existence, nous sommes tous en train de lire, nous avons tous des conversations intéressantes qui nous permettent de progresser, de gagner en lucidité, en imaginaire. Mais là encore, le problème, c'est que comme on ne peut pas les nommer, on ne peut pas les valoriser, on ne peut pas les défendre, et ce moment d'osium, ben c'est un peu la dernière roue du carrosse. C'est ce qu'on fait quand tout est fait, quand les enfants sont nourris, quand on a rempli les tâches qui nous paraissent beaucoup plus urgentes et quand on n'a pas passé 4 heures à scroller devant son écran.
Dans l'Empire romain, il y a une pratique qui est apparue qui s'appelait l'osium. C'était une pratique de haute civilisation, de gens qui d'un seul coup sont devenus des gens qui essayaient de vivre bien, de penser, de vivre sobrement, d'avoir une vraie belle vie. Ces gens-là, Jean-Marie André, un historien, a écrit un livre sur eux. Il a dit, voilà comment sont apparus les gens de l'osium. C'était des anciens légionnaires romains Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des bifurcations qui se produisent dans l'histoire. Et généralement, elles se produisent après des excès, qui sont des excès qui portent les civilisations à leurs propres limites. Et ça engendre une nouvelle civilisation.
Le philosophe Bernard Stiegler, décédé en 2020, auteur de Mécréance et Discrédit, dont la troisième partie du premier tome est appelée L'Ossium du peuple, auquel vous rendez hommage dans votre ouvrage Jean-Miguel Pire. Quand Bernard Stiegler, qui est en prison après ses braquages armés pour cause de manque d'argent, étudie la linguistique et la philosophie, c'est de l'ossium ?
Mais c'est très émouvant d'entendre sa voix, je l'ai bien connu, et c'était un très grand philosophe au sens ancien, c'est-à-dire qu'il pratiquait la philosophie aussi dans sa vie quotidienne. Et effectivement, il a raison de dire que l'ossium renaît après des catastrophes, après des moments de chaos, quand on a enfin envie de retrouver du sens, en fait, et que quelques individus se réunissent pour essayer de comprendre ce qui leur arrive et de repenser à nouveau frais la société qui pourrait se reconstruire. C'était aussi le cas de Hannah Arendt entre 40 et 45, qui identifie un moment de grande fécondité philosophique mais aussi politique qui engendrera la société qui viendra après 45. Donc effectivement, peut-être est-ce qu'on traverse un moment de chaos de cet ordre. Le moment du Covid, je le dit dans le livre, a été un moment de vérité, parce que jamais autant on a eu autant de temps, mais jamais finalement ce temps nous a effrayés et on a eu du mal à le transformer en temps fécond, justement. Le monde d'après, on l'attendait, on l'attend toujours. Mais peut-être ce qui a changé, c'est qu'on sent bien qu'on ne peut peut-être pas continuer comme ça, et que parmi les leviers qu'on peut identifier, et en particulier la jeune génération peut-être l'a compris, il y a le rapport au temps, l'usage qu'on fait du temps, et l'idée que le temps pour vivre intensément, pour réfléchir, pour jouir, pour se déployer, est un temps qui a peut-être plus d'importance que ce qu'on a bien voulu nous faire croire.
Il y a le temps et il y a évidemment l'argent. Et Pierre Bourdieu évoque cette idée quand il s'empare de l'idée de la scolée qu'on retrouve dans l'Antiquité, puisqu'il dit que pour accéder à ce temps-là, justement, l'individu doit d'abord disposer d'un emploi dignement rémunéré qui lui assure l'indépendance matérielle pour justement cultiver l'immatériel. Donc l'ossium aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui concerne les privilégiés.
Alors c'est une question évidemment centrale et qui a été beaucoup évoquée lors de la sortie du premier livre. On me disait, bah oui, votre ossium c'est très bien, mais c'est quand même réservé à un tout petit nombre, c'est pour les aristocrates. Et j'ai voulu répondre dans le titre à cette interrogation qui était très légitime, en appelant mon livre L'ossium du peuple, avec un clin d'œil évidemment à Marx, mais en songeant effectivement que peut-être que l'ossium a été pendant très longtemps et demeure le privilège de quelques-uns. Pour autant, c'est un droit universel. Et comme la plupart des droits universels dans l'histoire de la société, les biens comme l'éducation, la santé, la culture, de toute éternité, étaient réservés à un tout petit nombre de gens. L'ossium n'échappait pas à la règle. La différence à partir du 19e siècle, c'est l'avènement de la démocratie. La démocratie, c'est de répandre tous ces biens, de les mettre à la disposition de tout le monde. Et ça a été le cas pour la prospérité économique est désormais le fait d'une grande majorité de gens, même si beaucoup d'efforts restent évidemment à faire. Pourquoi est-ce que l'ossium ne bénéficierait pas du même traitement ? Bourdieu dit une chose très intéressante dans son dernier ouvrage, un de ses derniers ouvrages, Les Méditations pascaliennes. Il parle de la scolée comme une possibilité anthropologique universelle. Je pense qu'on peut pas mieux dire effectivement que ça a été un privilège, mais que c'est un droit humain qui aujourd'hui doit faire partie des droits offerts par la démocratie.
Le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement, hautement agréable. Et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste ? Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Imaginez que les gens aient une frénésie de savoir comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Eh bien, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles ? Ben, ça serait le désastre social total.
Facétieux Michel Foucault au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie en 75. Jean-Miguel Pire, vous le citez dans votre essai sur l'osium, et lui le considère comme l'outil d'un souci de soi et soucieux d'autrui, ni narcissique, ni égoïste. Et pourtant, on pourrait se demander parfois si autrui n'est pas le grand absent du siècle.
Mais en fait, la pensée de Foucault est très éclairante parce que effectivement, elle nous permet de faire le lien entre ce fameux osium et les enjeux politiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la dernière partie de ses travaux, de sa vie, Foucault réfléchit à l'histoire de la sexualité, mais il réfléchit en fait à un moment historique où un groupe d'individus dans la Rome antique s'est soucié de sa réflexion éthique, a réfléchi à ses comportements et a essayé de développer, de renouer avec cet osium pour mieux vivre au fond et pour inventer une éthique dans une époque où il n'y avait plus de grands récits au fond qui s'imposaient au comportement des contemporains. Et Foucault nous montre que finalement nous sommes peut-être un peu dans la même situation de ce moment où il faut réinventer une éthique. Qu'il faut repuiser aux fondamentaux de ce qui fait sens dans notre vie. Et il met l'accent sur le rôle des individus et la puissance d'invention existentielle des individus, pour autant qu'on leur aura permis d'avoir accès aux moyens de se doter de cette réflexion.
Mais je me permets tout de même de réinsister sur ma question qui ne concernait pas du tout cet aspect-là, mais qui concernait vraiment autrui, le narcissisme, l'égoïsme.
Alors, j'y viens. Le problème de cette réflexion de Foucault, c'est qu'on l'a accusé d'être de tomber dans une sorte de dandysme moral, et que au fond, de faire la promotion d'une sorte de narcissisme effectivement auto-référentiel, avec cette idée que la morale naît de la réflexion d'un individu ne pouvait être que égotiste et égoïste, alors qu'en fait tout l'enjeu de Foucault est de montrer que il y a une possibilité d'inventer un sens moral, une éthique qui n'est pas forcément réductible à cet individualisme. Et il fait référence peut-être à des groupes, et il l'a montré, et on le voit aujourd'hui, des réunions d'individus, des groupes qui peuvent, par leur pratique, en essayant d'inventer des formes alternatives de sociabilité, essayer d'imaginer des formes alternatives aussi de famille, de mode d'existence, d'inventer des modes d'être qui sont aussi épanouissants et qui peuvent faire sens pour le reste de la société, qui sont pas seulement des monades en opposition avec une morale commune, mais qui peuvent être des sources aussi de d'inspiration pour une époque qui, malgré tout, est en quête de réflexion éthique.
Et puis rappelons que le fait de se retirer, justement, et de penser dans la solitude permet parfois d'être mieux en société.
The handles of a blade, on the knuckles, round the handles of a blade, a bloody blade. Now here it comes, all the flashing lights and sirens, how you know it won't be long. Time for the radio to play your last song, your last song. Just calling to tell you, baby, that they're taking me away for a while. Well, don't blame me, it's the world that made me, and they're taking me away for a, taking me away for a. Now Does the world know what it means? Oh, now they're slipping on the bracelets. Are you so young and hard and mean, so cold and mean?
Night of the Hunter des Libertines.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Nous sommes avec le sociologue et historien Jean-Miguel Pierre pour parler d'Ossium, cette notion nommée ainsi par les Romains et héritée de la Grèce antique.
Bientôt, les grandes vacances. 9 millions des 12 500 000 salariés français auront droit cette année à 4 semaines de congés payés. Un coup d'œil en arrière permet de mesurer le chemin parcouru en France dans ce domaine des congés payés. Avant 1936, seuls les fonctionnaires et les employés des banques avaient droit aux vacances. La loi du 20 juin 1936 devait accorder 15 jours de congés à tout le monde. Le 22 mars 1956, nouveau bon, 3 semaines au moins de congés payés pour tous les salariés. En fin d'année 62, la décision de la régie Renault d'accorder 4 semaines à son personnel déclenche une vague de décisions du même genre au bénéfice de près de 9 millions de travailleurs.
Prends la route de ton choix, prends la route et va tout droit, elle est à toi. L'air de Paris te donne le vin gris, mais le grand air te le rendra plus clair.
Une archive de 1964 sur l'ORTF pour rappeler que nous avons fait des progrès entre les congés payés, le droit de retraite 82, et là c'est vous que je cite, Jean-Miguel Pierre, dans l'Ossium du Peuple, qui permet ce droit de retrait aux salariés d'arrêter de travailler si leur vie ou leur santé est en danger, le droit à la déconnexion qui entre dans le Code du Travail en 2016, et c'est le grand paradoxe de l'époque, nous n'avons jamais eu autant de temps libre et pourtant jamais n'avons-nous été dominés par l'impression d'en manquer. Vous citez Gérald Bronner qui dit qu'aujourd'hui en France, le temps de travail représente 11% du temps éveillé sur toute une vie, alors qu'il représentait 48% de ce temps en 1800. Que s'est-il passé ?
Que s'est-il passé ? Ben, il s'est passé qu'en fait, en même temps que les congés payés, qui sont une vraie politique de l'Ossium, pour le coup, s'est développée une industrie du temps libre. Une industrie du temps libre, c'était d'abord essentiellement le cinéma, puis la télévision. C'est-à-dire que d'emblée, ce fameux temps libre, les industriels ont compris qu'il fallait l'occuper, qu'il fallait s'en emparer, qu'il fallait le transformer en ressources et en capitaux. Alors, ne jetons pas le bébé l'eau du bain. Cette culture qui nous a été portée par les industries du temps libre a été souvent émancipatrice. Le problème, c'est que, et j'en parle dans le livre, nous sommes passés à une vitesse supérieure avec les écrans. Alors, on avait déjà les écrans de télévision qui étaient bien présents dans nos foyers et dont on avait déjà un usage très très excessif. Mais avec les écrans que l'on transporte dans nos poches, c'est la totalité du temps libre qui peut être absorbée et qui est fait par une industrie dont c'est le projet. Dont
l'addiction,
c'est
l'addiction totale au
l'addiction.
Digital.
C'est pour ça que le titre, d'ailleurs, est aussi un autre clin d'œil qui fait sens. C'est-à-dire, le nouvel opium du peuple, et le peuple au sens très large du terme, ce sont les écrans. Et ce sont des écrans qui ne nous veulent pas de bien parce qu'ils sont conçus, en tout cas pour une grande partie des sites et des réseaux sociaux, qui sont conçus par les industriels pour créer de l'addiction. Donc, en fait, on est passé d'une réflexion qui peut relever du confort existentiel, hein, l'ossium pour finalement développer une sagesse, etc. Mais finalement, on peut quand même bien s'en passer. Et là, on est passé à quelque chose qui relève de la santé publique, qui relève de la capacité non pas de réfléchir et de faire des bons choix et d'être un bon citoyen, mais simplement de conserver sa santé mentale.
Vous citez Paul Valéry qui écrit en 1935 « Nous ne supportons plus la durée, nous ne savons plus féconder l'ennui, notre nature a horreur du vide ». Mais parce qu'il faut aussi comprendre que parfois on a besoin de s'anesthésier parce que penser être lucide, ça peut mener aussi à la panique métaphysique. Jean-Miguel Pierre.
Alors, il y a deux choses. Effectivement, là, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'utiliser la totalité de notre temps libre à ce loisir intelligent. Personne n'y résisterait. On a besoin de regarder des séries idiotes et de scroller sur ton téléphone sans être complètement culpabilisé à tout instant.
Vous nous rassurez un peu.
Je vous rassure. J'ai perdu ce que je voulais vous dire.
Je disais que parfois, il peut être compréhensible qu'on ait envie de s'anesthésier.
Oui, alors c'est l'autre grand problème de l'osmium, c'est qu'au fond, personne n'y tient vraiment, en fait, parce que l'homme et la femme sont ainsi faites qu'il est plus commode d'avoir une série de réponses toutes faites, de prêt-à-penser, de choses qui nous défatiguent, de devoir réfléchir aux grands problèmes de l'existence ou aux micro-situations dans lesquelles on est plongé sans arrêt. C'est quand même plus commode, d'où le succès absolu et imbattable dans l'histoire du monde des religions. Les religions sont un catalogue de prêt-à-penser qui est extrêmement commode. Et aujourd'hui, dans notre époque sécularisée, les religions ne répondent plus présent et il faut occuper le vide. Et qui occupe le vide, effectivement, c'est le marché du temps de cerveau disponible.
Adonnons-nous à la rêverie et à la contemplation, puisqu'on en fait l'éloge ce soir, justement, avec votre découverte pour les auditeurs, Jean-Miguel Pire. C'est un lieu, une rue de Florence, que vous appelez la capitale éternelle de l'osmium, la Via San Leonardo. Je vous laisse nous en parler.
Florence, il n'y a pas de hasard. On parlait de la Renaissance, grand moment de revival de l'osmium. Et Florence, c'est une espèce de lieu où tout est resté figé dans un temps absolument éternel et qui semble entièrement voué à la contemplation. Alors, vous me direz, il faut mieux éviter les moments où il y a beaucoup de touristes, et il y en a très souvent, sauf peut-être en hiver, et pas partout. Et effectivement, la Via San Leonardo, que j'ai évoqué, est un de ces lieux un peu magiques, ignorés des touristes, qui prend, au sortir du Ponte Vecchio, vous allez vers le Palazzo Pitti, et vous attrapez une petite rue qui monte, qui serpente, et qui va en quelques enjambées, une dizaine de minutes maximum, vous emmenez dans la campagne. Vous êtes dans l'arrière des tableaux, des portraits de la Renaissance. Vous êtes au milieu des vignes, au milieu des cyprès, des oliviers, les villas qui apparaissent au fond. Et vous êtes dans une sorte de béatitude absolue. Et là, je parlais tout à l'heure du lien entre l'espace et l'osmium. Vous êtes dans un lieu où vous pouvez déployer votre esprit, ne penser à rien, où vous laissez complètement habiter par cet esprit de la Renaissance, finalement, dont nous venons tous. Donc, vraiment, j'encourage les gens, mais pas tout le monde et pas en même temps.
Pas tout le monde, sinon tous les flexibus vont être pris.
San Leonardo.
On entend votre premier choix musical, Jean-Miguel Pire, c'est Liza Minnelli, mais alors pas un endroit où on l'attend, I Want You Now.
Ah oui, alors là, on est vraiment dans la partie qui n'est pas du tout osmiomique, qui est plutôt du divertissement. Là, c'est un petit clin d'œil à mon arrivée à Paris, les premières années, et notamment un lieu que j'ai beaucoup fréquenté à cette époque qui s'appelait le Palace. Et Liza Minnelli, les Pet Shop Boys, c'est extraordinaire parce que c'est toute l'intelligence d'une pop qui est capable de tendre la main aux vieilles chanteuses, en fait, à ces grandes voix du music hall, à ces vraies voix, en fait, pour en faire un objet complètement étrange, bizarre, mais qui, je trouve, 30 ans après, tient toujours la route.
Ah, vous êtes un ancien du Palace, alors je vous imagine dans des choses incroyables dans le Palace, dans des fêtes somptueuses.
Vous pouvez.
Et votre autre choix, bon là, on change de perruque puisque c'est Mozart. Vous voulez dire un petit mot dessus avant qu'on l'écoute ?
Écoutez, non, la surprise.
La surprise et la beauté qui parlera.
Et la beauté, voilà. Thank you.
Vorrei spiegarvi Odio de Mozart, interprété par Edita Gruberova, Jean-Miguel Pierre. C'est magnifique.
Moment de grâce absolue, de suspens. C'est en fait une musique qu'a utilisé Visconti dans un de ses films les plus intéressants, je trouve, Violence et Passion, en italien Gruppa di Famiglia in un Interno, et c'est son testament. C'est l'histoire d'un vieux professeur qui vit retiré dans ses livres, qui est un peu écrasé, accablé par un surcroît d'osium, je pense, et qui essaye de revenir, ou qui a l'occasion de revenir vers la vraie vie, et ça se passe pas très bien. Et ce moment musical est au cœur du film et propose un basculement qui finalement n'arrivera pas. Donc c'est un très grand film et évidemment une très grande musique.
Donc on peut faire aussi une overdose d'osium.
Je confirme, je sors moi-même d'un long tunnel osiomique et quelquefois j'aspire à des temps qui ne sont pas du tout de cet ordre-là. Mais parce qu'on a besoin de respirer, on a besoin de nous sommes corps et esprit et on a besoin de libérer aussi les muscles. Et la vraie difficulté, c'est peut-être là la leçon grecque, c'est de trouver un équilibre, une harmonie, un juste et de se connaître. Connaître aussi, grande leçon de la philosophie grecque, se connaître, connaître ses limites, connaître sa disponibilité à des moments d'osium et d'autres moments qui ne le sont pas du tout et où il vaut mieux faire autre chose. Donc il ne s'agit pas du tout d'un discours de culpabilité, mais un discours de plaisir.
Mais on pourrait penser qu'on n'a aucune disponibilité pour l'osium tant qu'on ne le cultive pas, justement.
Eh bien, je pense qu'on s'en aperçoit quand on souffre d'étouffement, qu'on a l'impression qu'on vit dans un mode qu'on ne comprend plus du tout, ou qu'on ne se comprend plus soi-même, et en général, ça se termine sur le divan du psychanalyste. Donc il y a mille façons de reconnaître, non pas l'osium, mais le manque d'osium. Et comme on ne peut pas le nommer et le reconnaître, eh bien, il faut ruser quelquefois.
Alors, ça ressemble à... Je vous ai déjà demandé tout à l'heure, et vous m'avez dit que tout le monde vous posait la question, mais si par exemple, un soir, là, un auditeur, une auditrice qui nous écoute, est chez lui... n'a pas de choses urgentes à faire, hein, d'accord, ce qui est déjà assez rare, à 3 heures devant lui, luxe suprême. À quoi ça pourrait ressembler, l'osium, là ?
Revenons à la définition. L'osium, c'est tout ce qui permet de déployer sa conscience, de déployer son esprit.
Ça
sans
peut être
aucune...
regarder un film ?
Évidemment. Alors, dans les choses osiomiques à faire, au sommet, je dirais, c'est un livre.
Oui, évidemment.
Un livre qui permet de dialoguer avec l'osium d'un autre, avec l'osium
bien
de
sûr.
L'auteur. Mais un film, évidemment, bah, vous regardez Visconti, vous serez complètement dans l'osium. Mais je dirais, à la limite, on peut faire n'importe quoi. Ce qui compte, je dirais, c'est plus le regard que l'on porte sur ce que l'on fait et ce qu'on va en retirer. Je pense qu'on peut regarder Chapeau moulant et bottes de cuir, ou Dune, qui, cela dit, un bon film, mais une chose totalement commerciale qui n'a aucune ambition intellectuelle, mais le regard qu'on peut porter dessus, les enseignements qu'on peut en tirer peuvent être tout à fait osiomiques.
Pas le trampoline.
Alors, le sport est une bonne comparaison. Je pense qu'il y a des sports qui sont très méditatifs, en fait. Le trampoline, je ne sais plus réservé, mais la natation, par exemple, la course.
Jean-Miguel Pierre, vous avez été rapporteur général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle de 2006 à 2013, conseiller de Gilles de Robien au ministère de l'Éducation nationale en charge de l'éducation artistique et culturelle en 2005, et de Françoise Nyssen au ministère de la Culture en charge de l'accès à la culture ainsi que de l'éducation artistique et culturelle, du livre et de la lecture en 2017. Donc vous êtes engagé, et la question que je me pose quand je lis tout ça, c'est: travailler en politique permet-il l'osium ?
Bah, je modifierais la question. Je dirais, faire de la politique, c'est pouvoir, quand on est chercheur et qu'on se bat sur les idées que je défends, c'est peut-être pouvoir se donner la possibilité d'introduire de l'osium dans les politiques publiques. Et de toute évidence, dans ces deux expériences, c'est l'éducation artistique qui était au cœur de ma démarche. Et pour moi, je pense que la place de l'art à l'école est une des voies royales d'une politique de l'osium, en particulier parce que ça ne compte pas du tout. Parce que l'art est la dernière roue du carrosse, que personne ne s'y intéresse. Et c'est précisément pour ça qu'on peut en faire un formidable laboratoire existentiel à destination de tous les élèves.
L'art, la philosophie, qui sont vraiment les parents pauvres de l'école française.
Comme par hasard. L'école française est... largement tourné vers l'acquisition des savoirs avec l'objectif d'acquérir des diplômes et d'acquérir un emploi. Et c'est heureux et c'est évidemment une nécessité tout à fait légitime que les parents peuvent poursuivre. Mais je pense qu'elle pourrait, sans dommage, faire un peu plus de place à un élément qui fait partie du contrat démocratique passé par la Troisième République quand elle invente cette éducation à destination de tous, c'est-à-dire ménager un peu plus de place à ce qui permet de faire accéder les élèves à l'autonomie, à la pensée par soi-même, à une pensée aussi désintéressée, à l'idée que tous les savoirs ne sont pas forcément utiles au plan matériel, mais qui peuvent avoir révélé leur, non pas leur utilité, mais leur fécondité bien plus tard. On a tous le souvenir d'un moment avec un professeur extraordinaire qui nous emmène au cinéma, au concert, au musée, et on ne sait pas pourquoi, on s'en souvient, il s'est passé un truc, il y a eu un switch, on est passé à autre chose, et ça, c'est quelque chose qui est décisif dans notre parcours culturel et intellectuel.
Jean-Miguel Pire, vous encouragez évidemment la fréquentation des œuvres d'art et vous rappelez que le musée est parfois gratuit et que c'est le lieu de l'otium par excellence.
Le musée, c'est le lieu des muses, c'est le lieu des inspiratrices de cet otium, justement, parce que c'est le lieu où on peut, vous me demandez la question, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un peu de temps et on a envie de faire de l'otium? Mais j'ai le plus simple, pousser la porte d'un musée, n'importe lequel. C'est un lieu de silence, un lieu... Alors, peut-être pas les grands musées qui ont le plus de succès, mais beaucoup de musées sont vides. Et il suffit d'engager un dialogue avec une œuvre, quelle qu'elle soit, d'un dialogue silencieux, méditatif, mental, seul ou avec plusieurs autres personnes, d'en parler. Et là, vous êtes sûr que vous êtes dans un moment qui correspond à ce que Valérie évoque quand il dit « on ne s'est pas fécondé l'ennui ». Le musée, souvent, est synonyme d'ennui pour beaucoup de monde, eh bien, allez-y, fécondez votre ennui et vous verrez que si vous y allez avec cet esprit-là, cet état d'esprit-là, il peut se passer des choses vraiment intéressantes.
Vous encouragez aussi à être à ce que l'on fait, comme Montaigne qui écrit « quand je danse, quand je dors ». Là, c'est l'apogée de la sagesse, en fait.
C'est l'autre dimension de l'otium, c'est le développement de la conscience, le désintéressement, être faire des choses qui sont pas forcément utiles, et c'est l'intensité que l'on y est. C'est des moments d'intensité où on vit pleinement ce qu'on est en train de vivre. Et ça, je pense que c'est un des grands problèmes de l'époque, c'est que, justement, à cause des écrans, on est toujours à faire autre chose en même temps. On n'est jamais là vraiment où on devrait être, et finalement, on en ressort très frustré. Je pense qu'une des petites leçons de l'otium, s'il y en a une, vraiment, s'il y a un livrable pour les auditeurs, là, maintenant, à la fin de l'émission, c'est se dire bah oui, je vais vivre plus intensément les choses parce que, non seulement c'est pour mon plaisir, mais parce que ça va m'apporter des choses qui vont me permettre de me développer et je n'en sentirai peut-être pas le bénéfice tout de suite, mais cette intensité-là, elle va m'habiter et elle va devenir peut-être une nouvelle grammaire de mon mode d'être dans l'existence.
Jean-Miguel Pire, quel est le prochain otium prévu de votre côté?
Le prochain otium,
oui.
Bah écoutez, cette conversation, pour moi, c'est, je suis maintenant, vous voyez, je suis pas après la conversation, je suis ici et maintenant, et pour moi, mon otium parfait, c'est de discuter avec vous.
Ben merci beaucoup, Jean-Miguel Pire. Je rappelle que votre essai « L'otium du peuple à la reconquête du temps libre » est paru aux éditions Sciences Humaines. Et ça, vous le savez, chers auditeurs, cette émission a été réalisée par Lola Costantini et préparée par Céline Villegas et Laurie Négrevergne. À la programmation musicale, c'est Juliette L'Orphelin. À la technique, Vincent Désière. À demain, 20h10.